60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, Lorraine nous a rejoint. On va parler de comment se défendre, Lorraine, pour les victimes de chantage, d'extorsion, d'espionnage, par exemple.
Oui, comment vous défendre en tant qu'entreprise, qu'entrepreneur? On a un expert avec nous qui répond à vos questions. Bonjour Étienne Drouard.
Bonjour.
Étienne, vous êtes avocat associé au cabinet Hogan Lovells, avec nous sur ces sujets de cybercrime. Alors d'abord, un petit peu de contexte. De quoi on parle? On parle de mouvements dits de guerre sur Internet, de stratégies de manipulation. Ça, c'est quasiment votre quotidien au cabinet.
C'est le quotidien de beaucoup d'entreprises et le recours juridique sur ce quotidien, il intervient soit pour prévenir le fait d'être victime, soit pour guérir avec soit des armes juridiques, soit des armes de riposte numérique.
Prévenir et guérir. Alors, on va évoquer quelques situations concrètes. D'abord, quand une entreprise est victime, cas concret, de chantage, de tentative d'extorsion, voire d'espionnage, quelle est aujourd'hui la boîte à outils juridique dont elle dispose pour pouvoir réagir, on va dire?
Alors, une manière d'être une victime qui réagit, c'est de ne pas être une victime. Je veux dire par là que la prévention du risque d'infiltration, du risque d'espionnage, d'une cyberattaque, d'un blocage lié à une rançon, cette prévention change le risque que ça survienne de 1 à 9 sur une échelle de 10. Et une fois qu'on a été victime, parce que ça arrive quand même tous les jours, la question est plutôt de savoir quand que de savoir si on peut être victime de ce type de phénomène.
C'est important ce que vous dites là, ça veut dire que tout le monde va y passer.
Statistiquement, tout le monde y passe au moins une fois en 3 ans.
D'accord.
Que ce soit sur la fraude au président, où on se fait passer pour un créancier et vous payez la mauvaise personne, ou des pénétrations informatiques avec des ransomware.
Ouais.
C'est la moyenne pour les entreprises d'au moins 20 salariés. Donc le seuil s'est énormément abaissé. On parle de quelque chose de très populaire, c'est-à-dire c'est un marché très rentable qui touche des entreprises qui ne sont pas forcément des champions de la technologie ou d'énergie. Donc se prévenir, c'est énormément important. Des fonds viennent d'être débloqués pour aider les entreprises qui n'ont pas les moyens à s'acculturer à ce sujet. Et puis pour guérir sur le plan juridique, eh bien c'est le temps du droit. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, diffamation, pratique anticoncurrentielle, atteinte au secret des affaires, mais vous aurez raison sans forcément avoir une réparation à la hauteur.
Oui.
Et donc le choix stratégique consiste à savoir si j'emploie en deux temps une arme juridique pour plus tard ou une arme de riposte pour tout de suite.
Alors, est-ce que justement une campagne de désinformation ou de déstabilisation d'entreprise, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit ce genre de méthode, de pratique?
Mais c'est bien d'oser poser la question comme ça, parce que non, c'est pas forcément illégal une campagne de désinformation. Si elle porte atteinte à l'honneur, à la considération ou à l'image d'une entreprise, et on peut avoir des recours juridiques, si elle consiste à diffamer, injurier des représentants pour discréditer leur image, on a des recours juridiques. L'atteinte au secret des affaires, les pratiques anticoncurrentielles, mais s'agissant précisément de la désinformation, le mensonge n'est puni que lorsqu'il va causer un préjudice que vous allez réclamer contre quelqu'un qui va être identifié. Évidemment, ces campagnes de désinformation ne sont pas directes. On n'est pas en train de se dire ouvertement « je ne t'aime pas, tu es un mauvais, tu es un voleur, ta technologie est mauvaise ». Donc, puisque c'est très indirect, le coût de l'enquête est bien supérieur à celui de l'indemnisation que vous pouvez espérer. Donc, juridiquement, tout n'est pas appréhendé dans la désinformation parce qu'il y a une grande liberté d'expression parmi laquelle la liberté de mentir. Mmh. Je crois qu'il faut le dire comme ça. Et puis, des outils juridiques qui interviendront avec un ratio punitif, pas forcément dissuasif dans nos traditions juridiques à nous.
Mais liberté de mentir, ratio pas forcément en faveur de la vérité, et tout ça est légal.
Une grande partie de la désinformation aujourd'hui peut ne pas être appréhendable par le droit, oui.
Si on parle d'entreprises victimes plutôt de chantage ou d'extorsion, est-ce qu'elles peuvent riposter sans risquer pour autant d'être hors la loi? Il faut faire attention à la réponse qu'on apporte.
Alors dans les ripostes, on peut avoir des ripostes juridiques qui vont consister à faire une diversion et par exemple lancer un procès qui n'a pas grande chance d'aboutir, mais pour étouffer son adversaire. Ça, c'est un moyen qui est utilisé en défense ou en attaque sur la manière de mettre à mal une entreprise pour qu'elle ne soit pas en pleine force au moment de l'accès à un marché. Vous pouvez estimer qu'il y a une violation d'un brevet dans 8 pays européens qui vont lancer autant de procédures et de ressources. Donc, on peut tout à fait utiliser l'arme du droit pour utiliser des ripostes qui sont forcément légales puisqu'on utilise l'arme du droit. On instrumentalise la loi, on instrumentalise aussi le juge en lançant un sujet qui va étouffer un adversaire économique, mais avec les moyens de la loi. Et puis, il y a aussi d'autres ripostes qui peuvent être licites sans utiliser les moyens de la loi. C'est toutes celles que j'évoquais qui sont dans un entre-deux-eaux où vous ne serez pas forcément identifié et ça n'est pas forcément sanctionnable. Mais qu'est-ce que ça fait mal sur le plan de la réputation, sur le plan médiatique et même dans la déstabilisation interne ?
Exemple.
Exemple, un dirigeant prend de la drogue. C'est une information véritable et on décapite un conseil d'administration. Mais même si c'est une information fausse, on peut avoir... Je prends cet exemple qui touche des personnes. Lorsque ça touche des entreprises, utiliser dans une certaine manière un chiffre sur l'impact environnemental d'une entreprise, au moment où celle-ci investit beaucoup sur soit du greenwashing, soit des vraies mesures, peut lui faire perdre des marchés, une image, l'accès à un pays en termes d'accès à des marchés publics. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est la dissymétrie de ces guerres économiques. C'est-à-dire qu'avec très peu de moyens, on fait très mal.
Oui.
Et avec beaucoup de moyens, on n'obtient pas forcément une réparation satisfaisante qui passe le goût d'y recommencer.
Pour conclure, Étienne, vous avez évoqué un petit peu la propriété intellectuelle, vous avez parlé du secret des affaires, un peu du droit de la concurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, la boîte à outils avec laquelle vous travaillez, avec laquelle les entreprises opèrent, est-ce qu'elles sont adaptées à la cyberguerre et puis, pour le dire de manière plus macroéconomique, eh bien, à ces nouveaux risques économiques qui nous entourent ?
Alors, ils sont adaptés au sens où les phénomènes d'infraction, de malveillance, d'extorsion sont tous qualifiés juridiquement. On peut tous réussir à les attraper par un concept juridique. Mais ensuite, dans quel territoire, avec quel délai et surtout quel niveau de coopération judiciaire? On voit que les États peuvent être bienveillants ou au contraire très coopératifs sur ce type de pratiques selon des intérêts qui sont davantage géopolitiques, de vraies guerres économiques, plutôt que d'un vrai droit international juridictionnel dans lequel on a tous envie de défendre des victimes contre une injustice. Et c'est ça qui manque le plus.
Vous restez avec nous, Étienne, c'est l'heure de notre chronique LinkedIn.
Et oui, on part rejoindre notre confrère Mehdi Randani. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
On espère que vous allez un peu nous remonter le moral. On parle avec vous cette semaine du télétravail. Vous avez sondé via LinkedIn les internautes. Dites-nous tout.
Oui, absolument. Alors, près de 3 ans, en fait, après le début de la crise du Covid, on a voulu savoir cette semaine à quel rythme les membres de LinkedIn pratiquaient le télétravail. Sur plus de 6000 répondants, un membre sur deux est en télétravail 1 ou 2 jours par semaine, 15% sont en télétravail 3 ou 4 jours, 8% en télétravail total et 25% pas du tout. Mais alors derrière ces chiffres, en fait, qui ont progressé depuis la crise sanitaire, se cache une autre réalité. Beaucoup de professionnels constatent en fait que les entreprises françaises rétro-pédalent actuellement sur le sujet du télétravail. Selon le dernier baromètre de l'emploi de LinkedIn, les offres d'emploi qui proposent du travail à distance sont d'ailleurs en recul depuis quelques mois. On assiste à un rééquilibrage. C'est d'ailleurs ce que vit Stéphanie, qui est responsable éditoriale. Elle vient tout juste de repasser à 2 jours maximum de télétravail par semaine auparavant. Le motif avancé par son employeur est qu'il faut favoriser les échanges, dit-elle. Isabelle, qui travaille dans le recrutement, explique, elle, que malgré des accords collectifs qui prévoient 3 jours de télétravail par semaine, son employeur n'accorde désormais qu'un seul jour.
Comment est vécu ce retour en arrière par les dirigeants, les dirigeantes ?
Oui, alors les dirigeants, eux, ils l'assument parfaitement. J'ai rétropédalé, nous dit Cédric, qui dirige une agence de marketing. Avant, les collaborateurs pouvaient télétravailler 5 jours par semaine s'ils le souhaitaient, et ça fonctionnait bien du point de vue du boulot abattu. En revanche, du point de vue de la cohésion de groupe, c'était devenu beaucoup moins bien. Alors on a suggéré à tout le monde de venir 2 fois par semaine dans les locaux. Voilà ce qu'il dit. Même son de cloche d'ailleurs pour Jacques, aussi chef d'entreprise, qui insiste lui sur le fait que le télétravail n'est pas un droit. C'est parfois utile, mais une entreprise, selon lui, c'est d'abord une équipe. Cela suppose un contact physique une bonne partie du temps.
Bon, mais dis, ce rétro-pédalage ne passe pas forcément bien auprès des salariés.
Effectivement, la plupart voudraient pouvoir choisir tout simplement le rythme qui leur convient le mieux. Pour Laurence, conseillère pédagogique, ce qui se cache d'ailleurs derrière ce retour en arrière, c'est un manque de confiance. Comme si être au bureau était gage d'un travail efficace, dit-elle. Les employeurs ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Et puis alors, pire encore, pour Jean-Louis, qui est professeur en école d'ingénieur, les employeurs seraient tout simplement ingrats. Ils n'ont pas compris, ou alors ils ont déjà oublié, que les télétravailleurs ont maintenu à flot l'activité des entreprises durant les confinements depuis mars 2020. Voilà ce qu'il nous dit. Leur demander aujourd'hui de venir au bureau davantage est aberrant, selon lui.
Bon, merci beaucoup, Mehdi Randani, de la rédaction de LinkedIn, de nous avoir aidé à prendre le pouls. Étienne, on conclut avec vous. Évidemment, le télétravail, c'est un boulevard pour les cybercriminels. On mélange outils de travail perso, outils de travail professionnel. On est encore plus connectés. Vous observez qu'il y a une corrélation stricte entre l'essor du télétravail, même si on comprend via Mehdi que ça se tempère un peu, et hausse du cybercrime.
Mais le fait d'être dans son contexte de domicile et d'avoir cette double activité d'une vie personnelle avec des outils informatiques personnels et professionnels, et parfois c'est le même ordinateur, font que les attaques à domicile vont pouvoir véroler une authentification, un contrôle d'accès et permettre de rentrer dans une entreprise. Ça se remarque en termes de pourcentage comme une augmentation de 10% des attaques d'entreprise qui passent par le domicile. Et cette augmentation de 10%, elle est récente, mais elle est opportuniste parce que les attaquants vont là où c'est le plus facile et le plus rentable.
Ça veut dire que dans la prévention, il va falloir prendre ce facteur évidemment en considération.
Et former les collaborateurs à comprendre qu'à la maison, on a autant d'obligations de secret professionnel et de vigilance qu'en entreprise, que dans le bureau.
Merci beaucoup Étienne Drouard, avocat associé chez Hogan Lovells. Vous avez entendu, c'est pas est-ce que ça va vous arriver, c'est quand est-ce que ça va vous arriver, donc soyez vigilants.
Oui, la différence est importante.